Lizzie présente Inavouable de Zygmunt Miłoszewski, traduit du polonais par Kamil Barbarski, lu par Julien Châtelet. Pour Martha. Je viens de te saccager l'Europe avant même que tu n'y aies posé le pied. Qui sait si je ne t'ai pas aussi complètement dégoûté de l'art? J'espère que non. Je ne vois pas comment on pourrait accuser les artistes de produire des œuvres qui, en général belles et pleines d'innocence, finissent toujours, Dieu sait pourquoi, par rendre les Européens encore plus malheureux et assoiffés de sang que jamais. Kurt Vonnegut, Barbe bleue. Partie 1. La bourrasque. Lendemain de Noël 1944. De la neige. Rien que de la neige. Mais pas des flocons charmants virevoltant avec légèreté. Pas des pétales printaniers et humides qui chuteraient lourdement pour se dissoudre sur les pelouses tièdes. Non. Rien que la pire neige des Tatras. Des cristaux de glace microscopiques portés par les rafales de vent, arrivant de partout, qui s'engouffraient sous les habits, tranchaient chaque surface de peau découverte comme des lames de rasoir, s'inséraient dans la bouche et dans les narines et gênaient les inspirations. Cette neige-là ne tombait pas, elle était simplement partout, occupait chaque espace, ôtait l'impression de réalité, annihilait tout sens de l'orientation. Cette neige transformait une marche nocturne en noyade dans une substance glaciale, désagréable, consciente et enragée. L'homme emprisonné par la bourrasque était persuadé qu'il avançait constamment vers le haut, que chaque pas le rapprochait de la cime des Tatras de l'Ouest. Il se répétait que le temps était son allié, qu'il lui permettrait d'éviter les patrouilles allemandes et d'atteindre la Slovaquie. Une fois le sommet conquis, il comptait débouler dans la vallée, laisser la tempête loin derrière lui, s'abriter entre les sapins pour se reposer un peu, puis atteindre une ferme quelconque à l'aube. Il sentait qu'il faiblissait. Pourtant, le devoir le poussait à grimper. Le devoir, mais aussi une peur animale. Dès le lever du jour, tout le monde découvrirait que l'un des employés de l'hôtel avait disparu. Les Allemands feraient le lien avec les événements de la soirée et enverrait des avis de recherche aux quatre coins du monde. Se faufiler du côté slovaque et semer ses poursuivants était son unique chance de sauver sa peau et d'accomplir sa mission. « Tu es notre seul espoir », lui avait-on dit avant de prendre la route. Lorsqu'il y songeait, une vague d'exultation patriotique le submergeait, une vague si forte qu'elle chassait l'espace d'un instant la sensation de froid. Il imagina des scènes. Winston Churchill contemplant avec compassion le moignon de son doigt amputé. Il était prêt à un tel sacrifice. Qui lui demanderait tout bas si ça s'était passé précisément à ce moment-là? Ou le général Komorowski, en train d'accrocher la médaille Virtuti Militari sur sa poitrine, grave et solennelle, mais avec un sourire égaré sous sa moustache, qui lui adresserait un clin d'œil. Laisserait entendre qu'aucune médaille ne récompenserait jamais assez ce qu'il avait fait pour son pays. Si un dieu existait, n'importe lequel, alors il devait le laisser passer jusqu'à la forêt slovaque. À cet instant précis, le sort de la planète dépendait trop de lui pour qu'il puisse échouer. Ce voyageur, persuadé de grimper sans cesse, avait à peine 21 ans, et cela pouvait expliquer ses élans patriotiques. Il s'appelait Roman Kosovitch, était originaire de Poznan, et l'annonce de la guerre l'avait surpris en pleine formation d'alpiniste sur la face est du mont Kościelec, quand la nouvelle avait été hurlée par des touristes sur le sentier d'à côté. Il aurait dû rentrer à Poznan, mais l'oncle paternel qui l'élevait lui avait ordonné, dans un télégramme catégorique, de rester sur place. Persuadé qu'une station de montagne serait un lieu plus sûr que la région de Grande-Pologne, frontalière de l'Allemagne. Voïvodie que n'importe quel soldat désireux de se rendre plus à l'est devait traverser. Dans un premier temps, son oncle et sa tante avaient eu raison. Mais, à y regarder de plus près, ils s'étaient trompés. Les Allemands avaient occupé Zakopane à la vitesse de l'éclair. Ils avaient posté des gardes-frontières dans tous les refuges des environs et suspendu une croix gammée en bois sur la face est du mont Mnich. Ils dirigeaient la population locale d'une main de fer, pour qu'aucune idée stupide ne leur vienne en tête. Le nouveau pouvoir plaisait à certains montagnards, beaucoup moins à d'autres. Roman, de son côté, arrondissait ses fins de mois en tant que serveur et résistait à sa manière, tentant ainsi d'aider la Pologne. Une Pologne qui, fidèle à ses habitudes, avait cessé d'exister une fois de plus. Les terres de l'Ouest, y compris Poznan, la ville natale de Roman, avaient été annexées par le Reich. Les confins de l'Est étaient tombés sous le joug des Soviets et le reste de la Pologne, dont Varsovie et Cracovie, avait été transformé en une créature étrange, appelée gouvernement général. Un certain Hans Frank en était devenu le dirigeant. Chouchou de Hitler, docteur en droit, il aimait à se présenter en tant que roi de Pologne et s'acquittait avec ferveur de sa mission de résolution définitive de la question juive, ainsi que de la résolution efficace de la question polonaise, avec pour objectif de ne laisser à court terme du peuple polonais qu'une collectivité d'esclaves obtus. Hans Frank, comme il sied à un roi de Pologne, avait pris ses quartiers dans le vieux château royal de Wawel, à Cracovie. Mais en découvrant Zakopane, située au pied des montagnes, ville qui lui rappelait sa Schliersee bavaroise, il s'y était senti comme à la maison. Il avait rapidement ordonné qu'on rebaptise l'hôtel des Kalatovki, exceptionnel, car niché dans une clairière au cœur des montagnes et loin du reste de la station, en Berghaus Krakau. Il l'avait farci de SS et y avait établi une résidence de luxe où il passait presque tous ses week-ends. Il restait assis sur la terrasse à contempler le mont Kasprovi et sirotait son thé préféré, diablement corsé, et servi avec une goutte de lait par Roman Kwosowicz. En ce lendemain de Noël 1944, Roman avait effectué des allers-retours entre la cuisine et l'appartement numéro 17 du premier étage, jusqu'à tard dans la nuit. Personne ne s'y amusait. Personne n'y faisait la fête. Et, exceptionnellement, on n'y voyait même aucune putain. Roman avait vu et entendu des choses qu'il n'aurait pas dû, mais les occupants de l'appartement sentaient déjà sur leur nuque le souffle des soldats de l'armée rouge, stationnés non plus à des centaines, mais à des dizaines de kilomètres de Cracovie, et prêts à une nouvelle offensive. C'était donc eux le problème, pas un serveur qui en savait trop. À 2 heures du matin, il tournait en rond dans sa chambrette sous les combles, et n'arrivait pas à décider s'il devait se rendre chez Agnella ou si ce serait un acte précipité. À 2h15, il avait pris sa décision. On était en pays occupé. On pouvait mourir à tout instant. Il irait donc chez elle. Et c'est précisément de cet argument qu'il userait pour plaider sa cause. Il était là parce qu'on pouvait mourir à chaque instant. C'est alors que la porte s'était ouverte et qu'il avait vu non pas Agnella, mais un SS gracieux qu'il connaissait de vue, l'un des prétoriens préférés de Hans Frank. Il songeait que s'il s'était rendu chez Agnella plus tôt, les Allemands l'auraient probablement retrouvé quand même, mais au moins il n'aurait pas eu à mourir puceau. « Écoute-moi bien, car je ne vais pas me répéter », déclara l'officier allemand dans un polonais impeccable en lui tendant un objet métallique. Tu dois partir sur le champ et fuir en Slovaquie. Trop de montagnards jouent sur les deux tableaux par ici. Cache-toi. La guerre sera finie dans quelques mois. Je n'ai aucune idée de ce qui arrivera ensuite, mais, quand c'en sera terminé, tu devras remettre ceci à Karol Estreicher, du gouvernement polonais en exil à Londres. Répète. Je devrais remettre ça à Karol Esteraz. Estreicher. Répète. Estreicher. « Bien. Et maintenant, dégage. Habille-toi chaudement, le temps se couvre.